visite et ne leur téléphone plus. Cette absence ne laisse pas de les inquiéter. Comme les enfants de l'assistance publique au XIXe siècle, tiraillés entre leurs parents, leur famille d'accueil et le directeur d'agence, Laetitia et Jessica doivent faire allégeance à plusieurs légitimités adultes, souvent concurrentes. Il en résulte non pas un espace de liberté, des interstices où l'enfant pourrait se faufiler, mais un conflit de loyauté. Les silences de Laetitia peuvent s'interpréter comme un refoulement massif, une crainte inexprimable. Parler, c'est provoquer de la douleur, c'est trahir le père et les secrets familiaux. Raconter, c'est faire ressurgir la menace. Mieux vaut tout enfouir en soi. Laetitia n'est pas fine comme du papier à cigarette, mais obtuse comme un bloc de pierre. Ce n'est pas parce qu'elle verbalise peu qu'elle n'a rien à dire. Ce serait plutôt le contraire. Enfin, Laetitia développe des troubles de nature psycholinguistique. Elle donne des signes de dyslexie. Quand elle parle trop vite, ou sous le coup de l'émotion, elle se met à bégayer. Ça la gênait, se souvient Jessica. Alors elle s'arrêtait. On lui demandait de répéter, on lui disait « Vas-y, doucement !» Mais non, c'était terminé. Quant à l'orthographe, c'est tout un poème. Il n'y a pas un seul proche qui ne m'en ait parlé, et toujours avec bienveillance, comme d'une gracieuse idiosyncrasie. Même ceux dont l'orthographe est mauvaise s'amusent que celle de Laetitia soit pire encore. Pour leur anniversaire, Laetitia a offert des chocolats à monsieur et madame Patron. Un petit mot disait qu'ils étaient « dans le frico ». Une collègue témoigne. Elle était un petit bout de femme, toujours souriante et gentille, un an plus vieille que moi. Au travail, tout le monde pensait l'inverse, c'était drôle. Elle me faisait rire avec ses fautes d'orthographe. Sur les bons qu'elle donnait pour la cuisine, elle écrivait « criton » au lieu de « citron ». On en rigolait encore il y a peu avec mes parents. Une des éducatrices de Laetitia m'a montré ses dessins, qu'elle a conservés dans un carton. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, ni de la psychanalyse de colloque, aussi dirais-je simplement les sentiments qu'ils ont fait naître en moi. En 2002, à la veille de ses 10 ans, un soleil qui pleure éclaire des femmes informes et une maison carrée avec un toit en triangle. La porte est fermée avec un énorme loquet violet. Maman est une chose sur laquelle on peut taper jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de forme. Laetitia est une maison dont les portes et les volets sont fermés. Les clés perdues. En 2003, âgée de 11 ans, un bonhomme rouge, morcelé, doté de mains énormes, de jambes carrées et d'une tête informe sans visage. Pour dessiner, Laetitia a utilisé un gros crayon de bois sans appuyer. Le trait est tremblé, le remplissage du bonhomme est incomplet et maladroit. En 2003, la maison de papa. En haut, dans un coin de la feuille, les rayons du soleil se mêlent à la fumée de la cheminée. La maison est envahie d'escaliers qui se recoupent dans tous les sens et de petits carrés semblables à des maisons miniatures. La porte est verrouillée. À l'extérieur, un homme et une petite fille attendent, comme enfermés dehors. Un autre dessin sans date. Un arbre, composé d'une souche monochrome marron et de 8 traits représentant les branches. Pas de verre. Pas de feuilles, pas de vie, pas d'énergie. La vie en collectivité convient davantage à des fillettes qu'à des adolescentes, qui ont besoin d'une chambre, d'un bureau pour travailler, d'une certaine intimité. Quelle que soit leur motivation, les éducateurs ne peuvent devenir des figures d'attachement. C'est la limite de l'éducation dans les maisons, au toit en pente. À l'approche de leurs 13 ans, l'équipe demande à Laetitia et Jessica si elles souhaitent retourner chez leur père. Réponse commune, bof. Elles craignent toujours sa violence latente. Finalement, elles optent pour un placement en famille d'accueil. Au printemps 2005, les jumelles sont envoyées à l'essai, le week-end, chez Gilles et Michel Patron, qui vivent à Pornic dans une belle maison spacieuse, idéale pour accueillir 2 grandes filles. Les séjours se passent bien. Les filles sont heureuses de venir, et s'acclimatent rapidement. Monsieur et Madame Patron les surnomment « les inséparables », comme les petits oiseaux, car elles sont tout le temps fourrées ensemble. Consulté, Franck Perret réitère son refus. Comprenant qu'on ne tiendra pas compte de son avis, il existe